Aïda, on est dans ton salon où tu m'accueilles pour parler de ton livre qui s'intitule
La non-violence en islam, le djihad du cœur.
Aujourd'hui, on est vraiment là pour parler de ce livre et de ce qui t'a amené à l'écrire. Où est-ce que tu es née et quand?
C'était en 1960 et c'était en Algérie. C'était durant donc la guerre d'Algérie, ce que d'aucuns du côté français appelaient les événements d'Algérie. Et donc du côté algérien, c'était la guerre de libération nationale. Voilà.
Alors ton livre, il témoigne de ton parcours de vie jusqu'à la non-violence et à travers l'islam. Tu l'as écrit cette année, il est fini tout récemment.
Il est venu avec les feuilles d'automne. Je l'ai écrit, finalisé en 2016. C'est suite à une décision que j'ai prise après les attentats qu'il y a eu en France, en Belgique, et surtout à l'assassinat du père Hamel, qui a été assassiné donc dans son église par un jeune. Et ces événements ont réveillé une mémoire douloureuse chez moi qui est celle des années 90 où j'avais vécu les violences du terrorisme dans ce pays.
En Algérie.
En Algérie, oui, c'est ça.
Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie, donc 30 ans après la fin de la guerre d'Algérie ?
Peut-être revenir un petit peu en arrière, parce qu'en fait, moi, je suis née en Algérie, donc, durant cette guerre de libération. L'indépendance, j'avais donc 2 ans. Mais mon père travaille en France depuis les années 50. Et après quelques années, on a rejoint mon père par le regroupement familial. Donc moi, j'étais à l'école en France. Et après le bac, je suis retournée en Algérie. Donc moi, je fais partie des gens qui ont fait le retour.
C'était avec tes parents ou c'était
non,
toi?
Non, seule. Donc je suis retournée en Algérie. Ça arrangeait bien mes parents, évidemment, parce que voilà, comme j'étais jeune adolescente, ils préféraient me savoir en Algérie que pour eux à l'époque, continuer à vivre en France, parce que j'ai une éducation très, très rigoriste, hein, très rigide. Comme je le dis souvent, je suis issue d'un pays de violence, l'Algérie, de par son histoire, la colonisation, les guerres, de la violence aussi au niveau de la famille. Et je fais le choix de la non-violence, comme éthique de vie, et comme philosophie et je le souhaite aussi comme pratique, même si parfois c'est difficile. Hein. Mais c'est vraiment un choix politique, la non-violence. Et ce livre est là pour témoigner, pour expliquer que c'est possible, qu'on peut avoir connu la violence et faire le choix de la non-violence. Et en ce qui me concerne donc, à partir d'une éthique islamique. Ce que j'explique dans la deuxième partie du livre, puisque la première partie, c'est beaucoup plus mon parcours. Et comme je le disais, donc, après mon bac en France, je suis retournée en Algérie pour y faire des études.
Donc c'est en 1979.
C'était un peu l'après-Boumédienne. On était toujours dans le cadre du parti unique, parce qu'après l'indépendance, le régime algérien a fait le choix d'un parti unique en interdisant tous les autres partis, ce qui est éminemment très violent.
Ce qu'on appelle une dictature.
Absolument, absolument. C'est une dictature qui ne disait pas son nom, puisque elle se fait appeler République démocratique algérienne et populaire. Mais en fait, c'est, je crois, la pire des dictatures qui soit, parce que c'est très insidieux, en fait. On a une façade avec des élections, avec des gouvernements, mais le vrai pouvoir, il est ailleurs. Le vrai pouvoir, c'est un pouvoir de mafieux corrompus qui ont mis ce pays en coupe réglée.
C'est un pouvoir militaire aussi, non ?
Oui, c'est ce qu'on croit, mais je crois que bien sûr qu'elle est militaire, mais ils ont aussi leur complices, leurs clients dans le civil. Et comme c'est un pouvoir clientéliste, ceux qui y sont affiliés bénéficient des privilèges et des largesses que peut donner un pays éminemment riche au niveau sous-sol, pétrole, gaz, mais dont les dividendes ne sont pas redistribués ni réinvestis dans le pays, mais plutôt divisés entre les clients internes ou externes du régime.
Est-ce que tu avais conscience de la nature du régime en y allant ?
Ah, pas du tout. Non, pas du tout. J'étais jeune, naïve. Je partais, pour moi, c'était le retour au pays, c'était la crise identitaire. J'avais vécu en France un peu déchirée entre un modèle familial très rigoriste et puis un monde extérieur à l'école avec d'autres valeurs. Et j'étais très mal à l'aise et donc je voulais naïvement retourner vers mon pays. Je ris de moi parce que, mais bon, avec aussi beaucoup de tendresse hein, pour cette jeune adolescente que j'étais, qui avait un idéal, qui avait des croyances que je n'ai plus évidemment, puisque je les ai confrontées au terrain. Et en allant sur place, j'ai subi et beaucoup de violence aussi, parce que ce soit la société que je découvrais, parce que ce que je savais d'elle en y allant en vacances n'avait rien à voir. Une fois que j'y suis retournée pour y vivre, mais bon, ça j'y ai appris aussi énormément. Ce pays est un pays magnifique, mais plein de rudesse, surtout dans les confrontations humaines. Mais c'est un pays où j'ai vécu beaucoup d'initiations et où j'ai énormément appris. C'est un pays, malheureusement, qui est, comme je disais tout à l'heure, a été mis en coupe réglée par des mafieux sans foi ni loi, qui instrumentalisent tout et n'importe quoi tant qu'ils peuvent garder le pouvoir. Et ils ont leurré pas mal de gens progressistes dans le monde qui ont cru à cette déclaration de fait du socialisme. Mais dans la réalité des faits sur place, ça n'avait rien de socialisme. Si ce n'est peut-être pendant les premières années, la planification. Mais au niveau des faits, au niveau des atteintes aux libertés individuelles, c'était une dictature. Mais jusque dans les années 80, puisque ça a commencé à aller mal à partir des années 80, jusque dans les années 80, ça allait relativement bien grâce à l'argent du pétrole. Bon, même s'il y avait déjà de la corruption et tout, il y avait quand même une relative distribution. Ce qui fait que ça allait encore relativement bien. Ça avait permis quand même à une grande partie de la population très pauvre de trouver du travail dans les usines et tout ça, même si souvent ils étaient payés à rien faire. Donc, il y avait quand même, c'était pas la misère qu'il y a quand même aujourd'hui. Et ça a commencé à se détériorer avec les années 80 et puis la libéralisation économique. Et ça va de plus en plus mal, mais bon.
On va revenir sur, du coup, l'orée des années 80, quand tu es retournée en Algérie. Tu décides d'aller faire tes études supérieures là-bas. Qu'est-ce que tu veux étudier ?
Vu que j'avais une bourse algérienne pour continuer, pour aller faire mes études en Algérie. Donc j'avais une feuille de choix, et j'avais mis en choix, premier choix journalisme, deuxième choix archéologie, et le troisième psychologie. Et en fait, on a un peu décidé pour moi, puisqu'on m'a inscrit en psychologie. Donc j'ai fait de la psychologie. Mais pas que. Puisqu'après, je vais faire de la littérature allemande. Et en fait, je vais finir journaliste. Puisque j'ai commencé par travailler comme pigiste durant les vacances pour me faire un peu de sous. Et puis après, j'ai été engagée comme journaliste.
Dans quel journal ?
Ben, j'ai travaillé surtout à Algérie Actualité. C'est un hebdomadaire qui a disparu maintenant. Mais qui, à l'époque, c'était un hebdomadaire en français. Qui était à l'époque assez réputé en Algérie, parce que d'abord, non seulement il y a eu beaucoup d'écrivains, ou des gens qui sont devenus écrivains par la suite, qui ont écrit, mais il avait la particularité où on avait beaucoup plus de pages pour la société et la culturelle, puisque la politique, c'était un peu la voie de son maître. Donc,
Et l'espace de liberté,
voilà, c'était plus au niveau des pages culturelles, de littérature et de société. Donc, et comme il donnait beaucoup de place à ça, on faisait du reportage. J'ai beaucoup travaillé dans ce journal, mais aussi à El Watan, qui est né après, dans les années 90.
El Watan, c'est un journal
quotidien. C'était un quotidien aussi en France.
Il existe toujours.
Il existe toujours, oui, oui.
C'est un journal important quand même en Algérie.
Oui, relativement important, oui. Il fait partie de ces journaux, parce que je parle un peu de cette expérience dans mon livre, dans la première partie, qui sont nés après 89. 89, c'est l'année où il y a eu ce qu'on appelle l'ouverture démocratique en Algérie, c'est-à-dire qu'on a permis l'existence à d'autres partis que celui du FLN, qui pendant longtemps a été au pouvoir en tant que parti unique. Donc après 89, la constitution est changée, et donc c'est le multipartisme. Et on va donner la possibilité aux journalistes qui le souhaitent d'avoir une prime de 2 ans de salaire pour créer leurs propres journaux, et El Watan fait partie de ces journaux. Il y en a eu plusieurs. Donc plusieurs journalistes ont quitté le secteur public, tout le monde travaillait au secteur public avant. Donc en prenant leur salaire sur 2 ans, en se mettant ensemble, il y a eu comme ça plusieurs journaux qui ont été créés. Donc c'était la belle époque de vraiment d'une belle expérience journalistique qui n'a pas duré longtemps, puisque très vite on a resserré la vis, au niveau en tout cas avec liberté d'expression.
À quel moment tu t'es rendu compte que quand même c'était une dictature?
Je pense quand même durant les études, quoi, à l'université. C'est-à-dire qu'il y avait c'est un peu compliqué parce que c'était en même temps un parti unique, mais donc il y avait des partis clandestins, dont le PACS, l'équivalent du parti communiste ou algérien, donc qui faisait aussi de la propagande, mais en cachette, dans la clandestinité. Donc j'avais été approchée par des membres. Enfin, on sourit maintenant parce que à l'époque, pour se rencontrer, il fallait des codes secrets et tout ça, parce que... Mais ils faisaient ce qu'on appelle l'entrisme, c'est-à-dire que beaucoup pensaient changer les choses en rentrant dans les institutions du pouvoir.
Et changer les choses de l'intérieur,
voilà. Ce qui est impossible, j'y crois plus maintenant. Je pense qu'il faut vraiment... c'est en dehors du système qu'il faut travailler, vraiment, parce que le système est trop puissant, quel qu'il soit, le système est... Et puis il change les gens, et puis c'est trop lourd. Et beaucoup d'ailleurs se sont fait massacrer ou ratipoiser ou dévitaliser. Mais il y avait, par exemple, ce parti, même clandestin, faisait par exemple du soutien au président pour telle ou telle initiative, par exemple. Parce qu'il était quand même important, de par l'impact qu'il avait parmi les fonctionnaires, parmi les enseignants et parmi les syndicats à l'époque. Même si par après, ils ont été complètement repérés et puis éliminés.
Alors, cette élimination, elle est intervenue à partir de quand? Est-ce qu'elle est liée à cette espèce de ce que j'ai pu percevoir sans trop de précision, comme une sorte de guerre civile larvée?
Non, non. Il faut savoir que ce qui s'est passé, l'utilisation des islamistes, parce qu'on va y arriver,
ouais,
de l'islam politique, les islamistes ont été utilisés pour contrer les communistes et les progressistes. Le pouvoir a utilisé le pouvoir, quand je dis les pouvoirs, ce sont c'est les services secrets et des moyens comme ça, ont laissé grandir et se développer ces mouvements qui sont des mouvements sectaires, hein, ou les frères musulmans en particulier. Ils les ont laissés s'organiser et se développer pour casser les progressistes. Comment ça se passait, par exemple, parce que c'est des choses que j'ai vécues. On ne pouvait plus aller dans les salles de sport ni rien, puisqu'ils étaient occupés par que des groupes de... On les appelle les FM, en fait. Enfin, c'est pas franc-maçon, c'est frères musulmans. Les FM en français, Rwandjia, c'est un terme qui reprend frère, mais qui est péjoratif. Donc ce mouvement des frères musulmans, on les détestait, parce qu'ils étaient très méchants, et soutenus par les services secrets, parce que toute activité était interdite, sauf, bien sûr, pour eux. Et à l'époque, il y avait encore des fêtes, la fête de l'étudiant. Bon, après, elle a été interdite par les islamistes. Et c'est là où ils les utilisaient, donc ils venaient avec des bâtons et tout ça, et puis ils cassaient tout ce qui n'était pas... Ceux qui faisaient la promotion de la fête ou de la révolution agraire, ce qui existait donc à l'époque, étaient considérés comme des communistes, donc à tabasser. Et quand on se faisait tabasser, les services n'intervenaient pas. Et quand on allait se plaindre, aucune réaction. Et ils ont été utilisés, on les a laissés se développer, on les a laissés s'armer, parce qu'avec les années passant, au début c'était des tabassages avec des bâtons, après c'était devenu les épées. Donc les histoires d'épées et de couteaux qui circulent maintenant, moi j'ai connu ça dans les années 80. Et on a eu un étudiant, Kamel Hanzal, qui a été assassiné à l'arme blanche, au cours de lutte pour... parce qu'il y avait les comités de cité. Parce que dans quoi est-ce qu'on pouvait s'exprimer c'était encore le parti unique. À l'université, c'était au cours des élections des comités de cité ou des choses culturelles. C'était sur ça qu'on pouvait se positionner.
C'était quoi les comités de cité ?
Alors les comités de cité, c'était dans les cités universitaires, des comités où étaient élus des groupes d'étudiants et qui faisaient des revendications pour améliorer les conditions de vie, des choses comme ça. Et donc il y avait une bataille entre les islamistes et ce qu'on disait les progressistes pour faire large, mais parmi eux, il y avait soit des gens d'obédience communiste ou pas, il y avait aussi des gens du mouvement culturel berbère ou amazigh. Et tous ces groupes ne s'entendaient pas entre eux. Et surtout, les islamistes sont venus armés, et là, il y a eu des morts. Et ils ont gagné, évidemment. Pourquoi ? Parce que comme ils étaient armés, et comme ils menaçaient les gens et qu'ils finissaient par tuer, au bout de quelques années, c'est eux qui ont non seulement remporté les élections, mais éliminé toute opposition. Donc le pouvoir a joué les islamistes, les frères musulmans, contre les démocrates, en les traitant évidemment du communiste athée. Parce qu'on pouvait ne pas être communiste ni athée, et pourtant avoir d'autres valeurs que des islamistes, mais on était quand même considérés comme mécréants. Et donc là, à partir du moment où ils ont emporté les élections, ils ont fini par imposer leur modus vivendi par la violence. Donc
c'était
ça s'est passé...
Quelle année
c'est les années 80, 85, 86, parce qu'il faut comprendre qu'il y avait une stratégie. Ils ont d'abord pris le pouvoir sur les étudiants dans les universités. Moi, j'ai connu le moment où le voile est apparu. D'ailleurs, j'avais une copine qui est rentrée avec moi sans viol, qui a fini par le porter, qui faisait la promotion du voile. Donc on le donnait gratuitement si tu rentrais dans le groupe. Alors après, c'était plus possible. Il fallait l'acheter, le payer, c'était devenu tout un business. Mais bon, au début, avec les foires du livre, parce qu'il faut savoir qu'avec ça, ils avaient aussi la puissance derrière, non seulement du régime, mais aussi des Séoudiens. Parce que les foires du livre, il n'y avait que leurs livres qui étaient disponibles, quasi gratuitement, dans un pays où le livre est cher, très cher. Moi, à l'époque, je n'avais pas accès à tous les livres que je voulais, parce que d'abord, ce n'était pas disponible. Et là, c'était des livres, bon, en arabe, mais qui distillaient une certaine idéologie. Et après avoir pris le pouvoir dans l'université, ils ont fait le choix de l'école normale supérieure qui formait les enseignants. Suite à ça, donc, ils ont investi les écoles. Et évidemment, la société. Donc ils font de la politique. On ne peut pas leur reprocher d'avoir une stratégie de prise de pouvoir et aussi de prise de contrôle, voilà. Et là-dedans, le régime au pouvoir algérien a marché à fond. Parce que ça lui a permis de se débarrasser de ce qui le dérangeait à gauche. Une fois qu'on a éliminé les gens de gauche, ou soit dit de gauche, ils ont été sur le terrain, ils ont été suffisamment forts, ils ont voulu le pouvoir. Et quand il y a eu des élections, les seules élections relativement respectueuses, 1991, ils l'ont emporté. Oui, c'est normal. Après, les militaires ont décidé d'arrêter le processus électoral, mais c'était antidémocratique, parce qu'ils avaient gagné les élections. Alors, qu'est-ce qu'on a fait entre les deux tours ? On a arrêté, on a bloqué le processus électoral, on a foutu leurs dirigeants en prison, on a arrêté des milliers de gens qui étaient des militants islamistes, mais beaucoup n'étaient pas des terroristes ou des tueurs, c'était des gens, mais des milliers qu'on a mis dans les camps du Sud en Algérie, les camps que l'ancienne puissance coloniale avait utilisés pour enfermer les gens, et en particulier des camps où on avait fait des essais nucléaires dans le Sud. Évidemment, beaucoup se sont radicalisés. C'est comme si on leur avait construit les conditions idéales pour qu'ils puissent se faire, puisqu'on les a mis tous ensemble dans le sud, avec des gens qui n'étaient pas du tout des simples citoyens, avec d'autres qui étaient des tueurs, ou des, enfin bref, beaucoup d'un... Et on s'étonne après... Bon, ce qu'il faut vraiment, peut-être pour résumer, c'est que ces gens-là, qui font partie de groupes politiques... que ce soit des fanatiques ou qui prônent la violence pour accéder au pouvoir, ont été aidés et soutenus. Que ce soit dans le cas que j'ai connu en Algérie, que ce soit quand on le voit actuellement en Syrie ou en Libye. On voit bien que ce sont des groupes qui sont armés, qui sont financés. Il y a des puissances derrière et des forces qui les utilisent souvent pour... pour la guerre, la violence et le chaos. Ils ne peuvent se développer que dans des états de non-droit, que ce soit comme en Algérie ou ailleurs, ou même, je veux dire ici, si en France on laisse se développer des états de non-droit dans certains espaces de l'Hexagone, il ne faut pas s'étonner que ce soit ces gens-là qui vont prendre le leadership. Parce qu'ils le prennent sur la violence, sur les gens. Et ça ne peut se faire que si le droit n'est pas respecté. C'est pas les gens qui, comme ça, vont décider de les mettre à leur tête parce qu'ils les aiment bien ou qu'ils les trouvent intelligents ou représentatifs. Il y a vraiment un lien avec l'absence de droit.
Alors, donc on est en 1991. Les islamistes ont remporté les élections. Le pouvoir les empêche d'accéder au deuxième tour. Et du coup, là a commencé une vague d'attentats.
Mmh. Ben voilà, après, il y a ce qui s'est ensuivi, ce qu'on a appelé la radicalisation, des mouvements ou des groupes comme les GIA, les groupes islamiques armés et autres qui ont commencé à... D'abord, ils ont commencé par s'attaquer à des militaires. Il faut savoir qu'en Algérie, l'armée nationale populaire, donc ce sont des jeunes appelés. Donc des centaines de jeunes se sont fait massacrer dans des conditions assez horribles. Et puis après, des policiers. Et puis après, ça a été ils ont ciblé des corporations comme les journalistes. Et puis après, il y a eu des médecins, il y a eu des avocats, il y a eu des chanteurs, il y a eu des femmes aussi. Beaucoup de femmes. Une des raisons pour lesquelles je porte pas le voile, par exemple, en tant que musulmane, c'est parce qu'en Algérie, on a essayé de l'imposer par la violence. Et qu'il y a eu au tout début, des femmes ont été assassinées, dont une jeune fille, Katia, parce qu'elle ne le portait pas. Et puis après, la violence est devenue telle que beaucoup de femmes mettent ce voile, pas juste à cause du terrorisme, mais parce que voilà, c'est une société globalement... patriarcale, assez misogyne et surtout rigoriste, et que parfois pour des raisons de sécurité il vaut mieux porter un voile, et puis pour pas se faire embêter, pour pas se faire harceler dans la rue, et donc comme ça petit à petit des quartiers entiers, puis après des villes entières, les femmes ont préféré le voile. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi qu'il faut comprendre ici avec le voile, parce que je ne le dénigre pas, parce qu'il y a des femmes qui le portent de leur propre choix. Et beaucoup de femmes, grâce au voile, ont pu s'émanciper aussi. Ça, il faut le savoir, dans des pays comme l'Algérie ou certaines familles. Parce qu'elle porte le voile, elle peut sortir, elle peut aller aux conférences, des choses comme ça. Et elle peut s'opposer même à son père ou à ses frères, hein, parce qu'elle porte le voile. Donc le voile n'est pas... C'est un peu plus compliqué. Il peut, dans certaines circonstances, aider les femmes à s'émanciper.
Du coup, tu as quitté l'Algérie ?
Si je suis partie, c'est donc suite à une série de... C'était dans une période très précise où les journalistes étaient particulièrement visés. Et j'ai eu... Il faut savoir qu'il y a plus d'une centaine de journalistes qui ont été assassinés. Durant cette époque, journalistes et assimilés, donc des photographes et parfois des chauffeurs. Et j'avais déjà dû quitter mon appartement pour me cacher dans un endroit où j'étais pas connue. Donc c'était une période assez difficile, puisqu'on ne savait pas le matin quand on sortait si on allait pouvoir rentrer vivant. Et après avoir donc dû quitter mon appartement pendant près d'une année, Et suite, surtout, tant que je pouvais travailler, ça allait. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans le journal où je travaillais, où j'étais chef de rubrique, on a eu un souci avec un collègue qui a écrit un article et qui s'est fait censurer. Non seulement censurer, mais on l'avait licencié. Parce qu'il y avait eu des pressions d'en haut. Et nous n'étions pas d'accord et on a décidé de démissionner. On a fait une démission collective. Parce qu'en disant, on disait, bon ben voilà, on se fait terroriser à l'extérieur par les islamistes, intégristes, terroristes, bon d'accord. Mais on se fait aussi terroriser à l'intérieur par des pressions du pouvoir, ça ne va pas. Bon, ben, je me suis retrouvée sans boulot, à devoir me cacher.
Dans la clandestinité.
Donc là, je me suis dit, c'est bon, je suis repartie, donc je suis revenue en Europe où une partie de ma famille vivait, puisque... J'étais retournée toute seule. C'est en 94 que j'ai quitté l'Algérie, donc suite à ces problèmes de violence. Le pouvoir n'était pas capable de protéger ses citoyens. Et c'est comme ça que des milliers d'Algériens ont dû fuir ce pays.
Résumé des épisodes précédents. On est en 1994. Ça fait un an que tu vis dans la clandestinité et que tu as dû arrêter ton... que tu as démissionné de ton activité de journaliste. Et là, tu décides de retourner en Europe. Quelle destination tu choisis ?
On va pas la faire longue, hein. Je vais pas rentrer dans les détails. Je suis passée par la Suisse, puis après je suis venue en Algérie, en France. Et en fait, c'est en Belgique où je vais vivre et travailler. Et
reprendre des études.
Et reprendre des études, entre autres, en sciences islamiques à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Mon travail de fin d'études était sur la non-violence en islam. Et l'année dernière, quand j'ai vraiment été choquée, donc comme je le disais au début, parce que ces attentats, ces violences que j'avais connues en partie en Algérie, donc des attentats, des bombes qui explosent, je me suis dit, bon là, il faut que je témoigne, quoi. Et du coup, j'ai repris donc mon travail de fin d'études sur la non-violence en islam, et je l'ai enrichi de toute une autre partie qui était plus pour expliquer un peu mon parcours. Ce qui fait que ce livre, bon, bah, il fait 380 pages.
Et donc, il s'appelle quand même
Non-violence en islam ou le djihad du cœur.
Tu arrives d'un pays qui a connu des tensions très 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 fortes entre un pouvoir dictatorial et des puissances extrémistes religieuses qui en sont venues à s'affronter. Et toi, tu décides... d'aller étudier la théologie de l'islam. Comment ça s'est passé ?
C'est tout simple, c'est parce que, je veux dire, quand j'étais en Algérie, j'étais sortie de l'islam. Quand j'ai vu toutes ces violences, j'ai dit, c'est pas possible, si c'est ça l'islam, moi j'en veux pas. Mais je veux dire, quelque part avec le retour, j'ai toujours eu la foi, je le sais dans le sens où j'ai une espèce de certitude intérieure de l'existence d'une force supérieure, donc de ma foi j'appelle Allah. Mais j'étais vraiment révulsée et révoltée par toutes ces horreurs, ces violences. J'ai perdu des collègues, des connaissances, des amis, j'ai vu l'horreur aussi. Et donc j'ai mis des années en fait avant de revenir à une foi, je dirais, plus pratique. Et quand j'ai fait ces études en sciences islamiques, c'était pour... je voulais mieux connaître. Et je me suis réengagée en fait en islam. Pour moi, c'est entre moi et mon créateur. Hein. C'est un engagement dans le sens où je me considère comme musulmane après avoir démêlé le politique du fait religieux et de la spiritualité. Ce que j'ai compris, évidemment, c'est que il y a un hold-up sur le religieux dans les pays dans les pays dits musulmans. Et ça, c'est depuis la mort du prophète.
Ça remonte à il y a quand même un petit moment.
Ouais, 7e siècle. Dès sa mort, en fait, il y a eu déjà des luttes politiques. Et les califes qui vont prendre le pouvoir à sa suite, les quatre premiers qui sont vénérés par beaucoup de musulmans, trois d'entre eux ont été assassinés, dont l'un en pleine prière, Ali. Donc, c'est quand même interpellant. Et ça n'a rien à voir avec le religieux. Ce sont des luttes politiques. Et dès le début, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on va instrumentaliser le religieux. Et donc, il y a une confusion fondamentale entre le religieux et le politique. Pour continuer à assurer le pouvoir sur les gens.
Moi, je vais m'exprimer en tant que personne qui n'a pas la foi et du coup qui regarde les religions avec méconnaissance d'une part et beaucoup de recul. Et j'ai quand même l'impression que, quelle que soit la religion, et on le voit même jusqu'au bouddhisme aujourd'hui, il s'agit quand même souvent d'une prise de pouvoir.
Oui, mais c'est important ce point de vue, parce que je pense qu'il doit être affirmé avec beaucoup plus de fermeté face au débordement religieux. Il est vraiment important de limiter le rapport du politique et du religieux. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il ne faut pas parler en termes d'islam en général, parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas un monsieur islam quelque part, une madame islam qui est représentatif. Et il faut parler de musulmans et de musulmanes. Il y a autant d'islam qu'il y a de musulmans, disait un cher musulman que je respecte énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en islam, il n'y a pas de représentant de Dieu sur terre. C'est en même temps très intéressant, mais en même temps assez délicat et compliqué. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il va y avoir toute une série de systèmes ou d'institutions qui vont essayer de se placer en tant que médiateur entre le croyant et son créateur. L'islam n'est pas une nouvelle religion. L'islam, comme a dit le prophète, il a dit « Je suis venu apporter de quoi anoblir les caractères. » Il n'est pas apporté une nouvelle religion. C'est la même religion qu'Abraham. C'est-à-dire qu'on se situe dans la lignée abrahamique. On parle plus de Moïse dans le Coran que de Mohammed. La seule sourate qui porte le nom d'une femme, c'est la sourate Maryam. Et elle parle de Marie, père de Jésus, qu'on appelle Sina Issa. Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'amalgame et d'ignorance dans la tête déjà des musulmans. Je ne parle pas des non-musulmans, parce que je trouve que c'est important de faire sa propre critique, son autocritique, si on veut avancer, et plutôt que de critiquer l'autre. Donc il y a vraiment une critique à se faire à nous en tant que musulmans. Alors que le premier verset du Coran est une injonction à la connaissance, puisque c'est « Iqra, lis ». Mais malheureusement, il faut savoir que ça c'est un enjeu important, l'éducation des gens. Parce que des gens éduqués, lettrés, remettent en cause le système. D'où l'importance du taux d'analphabétisme dans tous les pays musulmans. Ou le corollaire de l'instrumentalisation du religieux par les pouvoirs politiques. Tous, même les plus laïcs qui se disaient laïcs, comme le pouvoir algérien, qui a un ministère des affaires religieuses. Et qui donc dicte les discours des imams. Donc les islamistes, frères musulmans et autres, ils se posent en dissidents à ce pouvoir, et ils ont le beau rôle parce qu'ils sont des opposants. Tant qu'on n'a pas compris ça, mais c'est pas parce que tu es dissident opposant que tu as des valeurs qui vont vers le respect de la dignité humaine, vers le bien et la coexistence pacifique. Et en islam, vu qu'on n'a pas l'équivalent du Vatican, beaucoup vont se poser en intermédiaire, alors qu'en principe, il n'y a pas d'intermédiaire entre le croyant et son créateur. Mais il doit se forger son opinion, son âme et conscience en lisant. Alors bien sûr, il peut toujours demander l'avis à un moufti et pas à un imam, parce qu'il faut savoir que l'imam n'est pas une fonction religieuse. C'est un rôle que peut jouer n'importe quelle personne pour guider la prière.
Dans ce principe-là de ne pas avoir de hiérarchie. Un musulman n'a pas besoin de mosquée pour prier. C'est, du coup, en termes de foi, on pourrait considérer que c'est effectivement un peu émancipateur.
Absolument, absolument. Il y a une charge et une force émancipatrice énorme au sein de l'islam. Et c'est cette charge, cette force émancipatrice que sont venus étouffer les pouvoirs politiques pour récupérer le pouvoir sur les gens. Parce que justement, quand Mohammed apporte ce message dans la société de l'époque, une société où régnait bien sûr l'esclavage, où régnaient les inégalités et les injustices, toute personne qui était musulmane ne pouvait pas être mise en esclavage par exemple. Il ne faisait pas de différence entre les hommes, entre les femmes, entre les noirs, entre les blancs. Donc c'était éminemment déstabilisateur pour la société dans laquelle il vivait. Dès sa mort, ceux qui vont reprendre le pouvoir politique, sachant que le Coran ne sera écrit que plus de 30 ans après, et c'est un choix politique qui sera fait, puisque... Il va faire rassembler les différents morceaux épars du Coran, et il va détruire toutes les autres versions pour n'en garder qu'une.
Et donc, dès le départ, intervient la question de la lecture, de ce qu'on choisit, de
Absolument.
L'angle qu'on prend.
Absolument.
Et ça, c'est quand même quelque chose qu'interroge très fortement ton livre, qui est sous-titré « Le djihad du cœur ». Et effectivement, pour la grande majorité d'entre nous, djihad égale lutte armée.
Oui.
Et toi, c'est effectivement pas l'angle selon lequel tu lis, tu mets plus en lumière l'existence d'un second djihad.
En arabe, les mots sont constitués sur base de racines trilitaires, c'est-à-dire à trois consonnes. Et à partir de cette racine, on peut avoir différents mots qui vont dire des choses très différentes, comme jahada, jimhadl, ces trois consonnes, mais selon la manière dont on va mettre les voyelles entre elles, ça va donner des mots très différents. Et la base de jahada, c'est faire des efforts. Et ce qui est demandé aux musulmans, c'est de faire des efforts pour s'améliorer. Évidemment, on en a fait le djihad comme combat armé. Il faut savoir qu'en islam, donc il y a différentes écoles juridiques. Actuellement, il y en a quatre. Il fut un temps, il y en avait beaucoup plus. Mais ces écoles juridiques vont donc élaborer des jurisprudences. Et en termes de guerre, il y a un code de la guerre. Donc la guerre n'est autorisée qu'en termes défensifs, pour se défendre quand on nous interdit de pratiquer sa foi. Mais le grand djihad, c'est-à-dire le grand effort qui est demandé, d'après les paroles prophétiques, c'est le travail sur soi. Étant entendu que dans le Coran, il est dit que le diable est en soi, comme le bien. Et donc, cet esprit du mal, qui est en fait cet esprit d'orgueil qu'on a en soi, cet ego, ce djihad al-nafs, donc, qui est très important en islam, qui est ce combat contre le nafs, c'est contre l'ego, comme étant cette partie de nous qui regroupe que ce soit la convoitise, la méchanceté, l'orgueil. Et on ne fait que le projeter à l'extérieur de nous et dans tout ce qui se passe comme violence. D'où cette injonction qui nous est faite de travailler sur soi. Pour d'abord apprendre à domestiquer ce mal qu'on a en nous, avant d'aller le chercher chez le voisin. Et la guerre, qui se dit harb, est très très codifiée. Il y a des codes très précis, avec des interdictions très très claires, très très nettes. On ne peut pas s'attaquer aux populations civiles, on ne doit pas détruire les arbres, ni toucher aux hommes d'un certain âge, ni aux enfants, ni aux femmes, ni aux hommes de religion. Je veux dire, tout ça, c'est clair. Et malheureusement, ce qu'on est en train de voir actuellement comme violence, qui se font au nom de l'islam, ne sont que des crimes passibles du droit pénal. Et c'est pas parce que ces gens qui commettent ces crimes crient Allahu Akbar que cela valide ou légitime ou justifie leurs crimes.
Est-ce qu'il y a... C'est une certaine lecture du Coran, j'imagine, ou alors est-ce que c'est juste politique? Est-ce qu'il n'y a pas dans le Coran quand même quelques ferments pour la violence?
C'est, Mais je c'est pas du tout mon avis, puisque pour moi, dans le Coran et dans la tradition islamique, c'est ce que je démontre dans ce livre, il y a les ferments de la non-violence. Maintenant, bien sûr qu'il y a une ignorance dans l'accès au Coran. Je veux dire, le Coran, c'est pas un livre de recettes. Il y a la lecture du Coran qui est une chose, qui est écouter ses sourates, même si on les comprend pas, il y a une musicalité, il y a des vibrations qui touchent une partie de notre être. Ça, je veux pas aller là-dedans. Mais pour accéder au Coran au niveau littéraire, c'est pas un livre d'histoire. Par exemple, il fait référence à certains personnages, mais il faut avoir lu la Bible pour comprendre. Parce que quand il fait référence à Joseph, Youssef, quand il fait référence à Marie, ou à Jésus, ou à Moïse, Moussa, il raconte pas toute l'histoire. Il va donner une anecdote, il va donner un verset dans une sourate. Mais ce qui est sous-entendu, c'est de connaître la Torah et la Bible. Ce que la plupart des musulmans aujourd'hui ne connaissent pas. Même la plupart des non-musulmans d'ailleurs. Ce qui est fort dommage. Parce que ce qui se passe, c'est que comme on ne connaît plus ce que j'appelle moi l'analphabétisme religieux, on n'a plus ses connaissances, donc plus ses compétences, ni ses outils, alors on se fait raconter n'importe quoi. Et donc on se fait manipuler. Alors qu'il y a un bagage, qu'on le veuille ou non. Même qu'on ne soit pas religieux, j'ai la foi, mais j'ai aucun problème avec les gens qui ne l'ont pas. Et je trouve que si Dieu a créé des gens qui ne croient pas, il sait ce qu'il fait. Je lui fais confiance. C'est comme la diversité végétale. Il faut de toutes les couleurs, il faut de toutes les fleurs. Je ne vais pas me mettre à la place de Dieu comme certains qui disent pas la vérité, c'est ça, ou Dieu a fait ça, ou Dieu dit ça. C'est complètement. Je dis, ça veut dire n'avoir aucun respect pour ce créateur qui crée cette diversité. Mais il est important quand même de connaître, comme patrimoine de l'humanité, ce bagage religieux. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, avec cette absence de connaissances, eh ben, on raconte n'importe quoi, au nom de Dieu, au nom de la religion, au nom de l'islam, et des jeunes qui sont en mal, pour toute une série de raisons, en mal de sens dans leur vie, ou peu importe les raisons pour lesquelles ils vont s'accrocher aux religieux.
Je pense à l'adolescente que tu étais et qui était un peu paumée entre son éducation familiale et ce qu'elle vivait au sein de la République française,
Oui,
par
tout à fait.
exemple.
Quand on est dans ces phases-là, moi je dis, si j'avais eu 15-16 ans aujourd'hui, peut-être que je serais avec un foulard ou avec un. Parce qu'en fait, c'est une stratégie identitaire. C'est un repère qu'on va chercher. Et c'est là où on peut être trompé, ou trahi, ou floué. Parce que j'imagine que beaucoup de jeunes qui sont partis pour se battre en Syrie, eh ben, sont mordus les doigts après. Parce qu'il y a un élan. Et cet élan, cette envie, ce besoin, soit de religieux, soit de quête de sens, soit de spiritualité, soit de donner un sens à sa vie, eh ben, est manipulé. Et surtout quand on n'a pas été éduqué, et si l'école ne remplit pas ce rôle, souvent les familles ne le remplissent pas. Parce que si je pense à des familles comme la mienne, c'est pas dans ma famille où j'ai appris le religieux. Dans ma famille, j'ai appris que le bien, le mal, ça c'est interdit, ça tu peux pas, sans aucune explication. Donc il faut bien qu'ils l'apprennent quelque part. Alors s'ils vont l'apprendre sur Internet ou chez des gens mal intentionnés qui vont leur enseigner la religion sous un package idéologique, ben c'est dangereux. De l'importance de je dirais aujourd'hui, d'alphabétiser au niveau religieux. Pour donner les outils, les connaissances. Après, les gens font leur choix. La croyance est une chose. On peut croire en Dieu comme on peut pas y croire. On peut croire en l'être humain comme on peut croire, je sais pas, à l'informatique, au transhumanisme. C'est des croyances. Moi, ma vie m'a appris que les croyances, ça bouge. Mais la foi, on peut pas l'acheter chez les psys. Dans le Coran, il est dit, Allah yahdi man yasha. Allah attire vers lui qui veut. Bon.
Quand même, je voudrais en revenir au potentiel interprétatif qu'il y a dans le texte. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ce que tu expliquais tout à l'heure du
Racine trinitaire. Tu veux dire. Oui.
Et du coup,
vas-y.
Est-ce que dans la lecture, on peut imaginer changer les voyelles et du coup changer le sens? Est-ce que ça peut être une explication des différentes lectures? Ou aussi, j'avais rencontré un traducteur du Coran. qui expliquait toute la charge poétique qu'il y a dans le texte et que il peut y avoir des moments où les choses sont exprimées par métaphore. Et comme tu disais, c'est pas un livre de recettes, une métaphore, ça s'interprète.
Oui, tout à fait. Maintenant, oui, je vois ce à quoi tu fais allusion, c'est ce qu'on nous sort souvent sur le Coran qui appelle au meurtre, où il y a des sourates précises, où il dit, où les gens considèrent que c'est un appel au meurtre. Il faut savoir que dans le Coran, c'est un livre qui est lié à une histoire. Ces sourates ont été révélées au prophète alayhi salatu wasalam, Mohammed, en fait, qui est le messager de Dieu, durant 23 années. Beaucoup de ces sourates sont liées à un contexte, lequel est politique. Et les endroits où on parle de mécréants ou de tuer les mécréants sont liés à des conflits qui ont eu réellement. Et en particulier, la plupart des gens qui étaient sous-entendus derrière ce terme mécréant, c'était les propres cousins de Mohammed, qui étaient les Quraychites, de la Mecque. Ceux qui avaient refusé de suivre son message. Et ce que je rappelle, c'est qu'il est resté quand même plus de 13 ans sans répondre aux provocations, ni aux persécutions, ni aux insultes. Quand aujourd'hui, des gens soi-disant répondent avec violence à des insultes au prophète, que je respecte, Mohammed alayhi salatu wasalam, Il a été insulté, il a été, on lui a jeté des morceaux de, on lui a jeté des cailloux, on lui a jeté des morceaux de cadavres, des tripes. Il a jamais répondu. Il essuyait, il rentre à la maison, Fatima lui essuyait, lui lavait la tête et les cheveux en pleurant. Et il a jamais répondu à ces insultes par la violence ou par la colère. On raconte l'histoire de Ali, qui était son gendre, et le fils de Fatima, sa fille bien-aimée, durant une bataille, il était sur le point de tuer un ennemi qui lui crache dessus. Et là, il rengaine son épée. Les gens n'ont rien compris. Il dit, mais pourquoi tu l'as pas tué? Il a dit, non, il m'a craché dessus. Ça m'a mis en colère. Si je l'avais tué, ça aurait été un acte égoïste, alors que j'étais dans une lutte autre. Donc je le fais pas pour moi, je le tue pas à partir d'un comportement émotionnel. Voilà le genre d'exemple que l'on peut reprendre des compagnons du prophète. Alors bien sûr que à un moment donné, il y a quelques versets, mais il faut les remettre dans leur contexte, hein, et on ne peut en aucun cas user de sourates ou de réflexions de ces anciens contextes pour des nouveaux contextes. C'est inadmissible. On ne peut pas. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas recevable. Ce qui était valable au 7e siècle ne peut en aucun cas servir de modèle pour la société d'aujourd'hui qui n'a plus rien à voir. Donc il y a des choses aussi dans ce texte qui sont liées à ce moment-là.
C'est quand même très très difficile de se dire « Ok, ça je prends ». Ça, je le remets dans son contexte.
Oui, tout à fait. Eh bien, et ça, c'est parce que dans le Coran n'est pas censé servir, comme je disais, de livre de recettes ou de modus vivendi. En islam, il y a non seulement la théologie, il y a la jurisprudence, mais il y a aussi sa propre raison, sa propre conscience. Je veux dire, la vie de tous les jours, elle est régie par des codes. Le messager Mohammed à Médine, quand il s'est exilé à Médine, je reprends dans mon livre des extraits, il a fait un pacte, ce qu'on appelle le pacte de Médine, qui était signé par les tribus juives, par les musulmans nouvellement arrivés et par d'autres qui n'étaient pas croyants du tout. C'est l'ancêtre du contrat social. Ça régit les relations du vivre ensemble et la façon dont on vit, que ce soit en société, dans la ville, que ce soit dans la famille. Ça dépend évidemment des lieux, des cultures. Tout n'est pas tiré du Coran, le Coran n'est pas appliqué à la lettre. Je veux dire, dans les pays musulmans, en principe, c'est la loi, le Coran est source de loi. Il est source, ça veut dire qu'il inspire. Ça ne veut pas dire que c'est un code. C'est pas un code de la route, c'est pas un code pénal. Il n'est pas à reprendre in extenso. Non, s'en inspirer, oui, mais on s'en inspire par le message qu'il porte. Il porte un message de salut, de paix, pour moi évidemment, et pour des millions de musulmans comme moi, qui le vivent dans la paix et dans la coexistence pacifique avec autrui. Il y a toute une série de valeurs qui sont là pour inspirer. Et les quelques versets qui existent et qui reprennent des événements de guerre ou de conflit, parce que la guerre et le conflit font partie aussi de la vie de l'humain et de l'importance d'apprendre à les gérer. Mais tout est comment on gère un conflit. Il y a des modes de gestion qui passent par la résolution pacifique, par la négociation, par la discussion. C'est ça qui est valorisé. C'est l'exemple qu'a donné le messager Mohammed. Alors après, justement, s'il n'y a pas une éducation, une alphabétisation religieuse, et qu'on va se servir d'un livre comme ça, c'est comme si on allait prendre l'Ancien Testament, j'imagine, et je sais que, bon, qu'il y a aussi plein de passages, on appelle au meurtre, et des autres qui ne font pas partie de la même ethnie ou de la même foi, donc les textes fondateurs ont des aspects aussi négatifs en eux qui s'expliquent.
Et qui étaient peut-être liés aussi au moment où on les a fixés à une nécessité tout de suite d'avoir un pouvoir quand même.
Absolument, absolument. Par exemple, en islam, il faut savoir qu'on parle des hadiths, des paroles prophétiques, mais beaucoup sont faux. Parce que beaucoup ont été... créés beaucoup sous l'insistance des pouvoirs des califes. Demander à des docteurs de la loi, puisque les docteurs de la loi en islam sont un rôle très important, d'aucuns étaient achetés ou payés pour donner des faux hadiths. Le prophète a dit qu'il faut obéir au pouvoir en place. Ça, c'est un hadith, je suis sûre qu'il est manipulé et qu'il est faux, parce que ça arrangeait bien. Donc, après, il y a tout un travail à faire pour vraiment investiguer et qu'est-ce qui était vraiment de sa parole et qu'est-ce qui était qu'on peut supposer avec un certain nombre d'indices que c'était des faux parce que ça arrangeait tel ou tel pouvoir.
Mais c'est difficile à établir avec certitude quand même.
Avec certitude, oui, mais il y a quand même toute une science, la science des hadiths, avec toute une série d'indicateurs pour repérer. Aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre de transmetteurs n'étaient pas crédibles ou fiables. Il y a des règles dans... Et c'est important donc de continuer dans ces études parce que il y a des écrits, il y a beaucoup d'écrits et c'est un travail d'investigation. Mais ne pas tout prendre pour argent comptant, c'est pas parce que quelqu'un va vous dire le prophète a dit qu'il faut le croire.
Alors je marque un petit commentaire. Donc Farouk s'est mis à tondre, je pense.
Ah oui, tu veux qu'on aille lui dire d'arrêter ?
Alors, il y a dans l'épisode précédent ou celui d'avant un moment où tu déplorais du coup qu'il y a une méconnaissance même de l'islam de la part des musulmans et que c'était peut-être la première chose à faire pour faire cesser le terrorisme et toutes les violences énormes qui concernent des populations gigantesques ailleurs qu'en France, quoi. Mais j'aimerais bien qu'on en vienne un peu quand même à discuter de la vision de l'islam en France, de tout ce que ces attentats permettent aussi aux pouvoirs politiques successifs dans cette République française, et à commencer par une question. Les musulmans français subissent les attentats d'une manière particulière par rapport aux non-musulmans.
Et c'est terrible parce que c'est comme le mot djihad, je disais tout à l'heure, j'explique dans ce livre que c'est un mot qui est important pour moi en tant que musulmane, pour le travail quotidien sur soi et de voir tous ces termes et cette religion qui nous anime, la voir souillée, la voir violentée humiliés de la sorte. Ça nous touche parce que non seulement parce que les gens meurent, parce qu'on a des proches qui en sont morts, et ça fait mal. Et je comprends que des gens puissent avoir peur de l'islam. Je le comprends tout à fait. Quand ils voient ces répétitions systématiques. C'est pour ça que je veux témoigner de ma façon de vivre et de concevoir l'islam. Parce qu'il se trouve que c'est comme ça, ceux qui usent de la violence font non seulement font du tort, mais ils ont une résonance incroyable au niveau des médias, au niveau et aussi au niveau des imaginaires, au niveau de l'horreur qui déchaîne. Alors que nous sommes 10 millions à vivre en paix et aspirer à la paix. Et à souhaiter vivre en paix. Salam alaykoum, la salutation, c'est que la paix soit sur vous. Et on dit sur vous quand on s'adresse à une personne, parce qu'on la salue, elle et son ange et ses anges. Donc c'est pour ça, salam alaykoum, le pluriel. C'est cette religion et ces pratiques et ces rituels individuels sont là pour nous faire entrer nous-mêmes dans une paix intérieure. Comment ? Eh ben, en apprenant à domestiquer les mauvaises parts en soi, en apprenant à pratiquer aussi la générosité, la bonté, le bon voisinage. C'est pas facile. Donc c'est un travail de tous les instants, c'est un travail d'une vie, et ça se passe aussi dans le rapport aux autres. Ces gens qui utilisent la violence et la haine, pour moi, ils font vraiment l'enjeu au niveau global d'un système politique qui veut détruire la coexistence pacifique, qui veut instaurer la guerre et la violence. Et comme par hasard, on le vient après ces attentats, ce à quoi on arrive, ce sont des lois liberticides. Donc pour moi, ils font le jeu, c'est un peu les idiots utiles d'un système global qui est basé sur la violence et qui use de la violence au niveau économique, au niveau financier, au niveau sociétal, au niveau politique. Et des gens comme ça, qui sont prêts à tuer d'autres ou à se faire tuer, ils sont tout bénéfice. Et tant qu'on n'a pas compris ça, c'est pour ça aussi que j'en appelle à une alphabétisation au niveau du religieux et du fait religieux, parce qu'on laisse un espace vide là, qui est aussi occupé au niveau politique, parce qu'il y a de pire en l'homme et de pire dans la politique.
On va peut-être conclure avec une note de musique.
Oui, ah oui, c'est vrai, ça, c'est Amina Alaoui, c'est une femme que j'aime beaucoup. En plus, elle chante un texte que j'ai repris dans mon livre. C'est Ibn Arabi qui parle de sa religion. Il dit « Ma religion, c'est autant... la synagogue, que le temple, que l'église, que la mosquée, mon cœur est ouvert à tous ces lieux. Ma religion, c'est l'amour. C'est mon islam, c'est le choix que je fais. Et à partir du moment où on fait ce choix-là, le choix du cœur, c'est ça qui compte. La quad sara qalbi. قابلا كل صورات فمرعى للغزلان وهدير لربان.
Alors Aïda Alouache, tu es l'auteur de Non-violence en islam, le djihad du cœur, aux éditions Koun. Où est-ce qu'on peut trouver le livre ? Comment peut-on se le procurer ?
Pour le moment, il est disponible à la librairie de la presse à Guéret et à la librairie du marché de Guéret aussi, ou aux éditions Koun. Les éditions Koun, les éditions avec un S, Koun, K-O-U-N-E, tout attaché, @gmail.com. Le livre coûte 15 euros. Mais il y a la version PDF aussi. À 7 euros.
Aïda, merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie de m'avoir permis de m'exprimer autant. Lorraine, merci.
Et à bientôt.
Inch'Allah.
فالحب دير.